Vous avez à tourner avec moi dans la parole de Dieu. Nous allons à la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Le titre du message de ce matin est le suivant, la bataille que vous ne vous pouvez pas vous permettre de gagner. La bataille que vous ne pouvez pas vous permettre de gagner. Souvent on dit la bataille qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Mais ce matin, le titre du message, c'est « La bataille que vous ne pouvez pas vous permettre de gagner ». C'est vrai que la plupart d'entre nous, on n'aime pas perdre, on ne veut pas perdre. Cependant, il y a une bataille que vous allez perdre et c'est celle que je vais parler aujourd'hui. Et vous allez voir qu'elle est bénéfique pour tous les enfants de Dieu. Genèse chapitre 32. Le chapitre 32 nous parle de Jacob, un nom qui signifie escroc, tricheur, menteur, vendeur, fraudeur, celui qui déçoit, celui qui prend plaisir au mal. C'est exactement ce que signifie le mot Jacob. Et pourtant, Jacob, avait rencontré le Seigneur un jour. Et cependant, il y avait encore beaucoup de résidus du caractère du vieil Adam dans le cœur de Jacob. Dieu devait traiter le cœur de Jacob, devait provoquer des choses pour amener Jacob à vraiment ressembler à la personne qu'il voulait qu'il soit. Et cela nous rappelle une chose ce matin, frères et sœurs, en tout cas en préparant mon message, je me rappelais ceci, c'est qu'en chacun de nous sommeille un petit Jacob. Est-ce que vous dites amen à ça? En chacun de nous sommeille un petit Jacob. Le texte que nous allons examiner ce matin va nous aider à comprendre comment Dieu a agi avec Jacob. Parce que la façon dont Dieu agit avec Jacob, frères et sœurs, à bien des égards, c'est la façon qu'il va utiliser aussi pour nous. Alors, je vous invite à regarder, on va faire l'exégèse du texte, mais on va regarder les versets du chapitre 32. La première question qu'on peut se poser, pourquoi Dieu a-t-il aimé Jacob? Pour la même raison qu'il vous aime, frères et sœurs. Dieu n'aimait pas Jacob pour ce qu'il était, mais Dieu a aimé Jacob pour ce qu'il allait devenir par la suite. Car malgré tous ses défauts, Jacob avait un cœur pour Dieu. Est-ce le cas pour vous et pour moi ce matin? Avons-nous un cœur pour le Seigneur ce matin? Je suis heureux aujourd'hui de savoir que Dieu nous aime, et ce, malgré nos faiblesses et malgré nos défauts. Dieu voit quelque chose en nous qu'il veut faire ressortir un jour pour qu'il soit glorifié. Je t'amène à ça ce matin. C'est vraiment, vraiment la raison du Seigneur. Il nous aime, voilà pourquoi il continue à agir en nous, et il continue à agir avec nous, et nous pouvons rendre grâce à Dieu pour sa grande patience. Jacob était parti de chez lui depuis 20 ans, c'est un peu le contexte avant le chapitre 32, et rappelez-vous qu'il avait dû quitter en catimini sa famille, parce qu'il avait trompé son frère Ésaü en lui prenant son droit d'aînesse et en lui volant la bénédiction qui lui revenait en tant qu'aîné. Il avait dû s'enfuir parce que quelqu'un avait entendu son frère Ésaü, Genèse chapitre 27, verset 41, avait entendu Isaïe dire « Mon père va bientôt mourir, ce jour-là je tuerai mon frère Jacob ». Et Jacob décida donc qu'il était devenu dangereux pour lui de rester sur place, avec tout ce qu'il avait fait de mal, et sur le conseil de sa mère, il va partir chez son frère Laban, où il va y habiter pendant 20 ans. Et pendant ces 20 ans, il va fréquenter ce que j'appelle l'école des coups durs, chez son oncle Laban, qui ressemblait, c'est bizarre, qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à Jacob. En fait, quand vous résumez, vous lisez le résumé de son séjour chez son oncle, Laban, vous réalisez que Laban s'est amusé à tromper Jacob et que Jacob s'est amusé à tromper Laban. Et tout cela sous le regard de Dieu qui savait exactement où il devait amener Jacob à vivre pendant une certaine période de sa vie. Et frères et sœurs, je réalise une chose, c'est la même chose pour vous et moi. Le Seigneur, il sait exactement ce que vous avez besoin, ce dont j'ai besoin pour nous former. Et le Seigneur, en son temps, il nous envoie dans des endroits, il nous permet de vivre des choses. Pourquoi? Parce qu'il veut nous amener, il veut nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Si quelqu'un un jour m'avait dit que j'aurais quitté le Québec pour venir en Belgique, je lui aurais dit qu'il se trompait de personne. Je lui aurais dit que jamais, premièrement, je ne savais pas où était la Belgique. La seule fois que j'avais lu le mot Belgique, c'était dans les bandes de Tintin. Donc, je ne savais pas où était la Belgique, et quand on m'a dit que j'irais en Belgique, c'était le Seigneur, on a confirmé à travers notre décision, à travers ce que le Seigneur avait préparé, que c'était la Belgique qu'on devait venir. Mais en Belgique, on a reçu énormément dans notre formation en tant que chrétien, à travers différentes églises qu'on a fait en Belgique, Mais Dieu, à chaque temps, je peux dire que Dieu a permis de vider les choses qui ne lui appartenaient pas dans notre cœur, mais aussi de nous remplir de son amour, de nous remplir de sa compassion et de pouvoir pardonner aux autres comme il nous a pardonné. Vous savez, frères et sœurs, Dieu est très sage et il sait exactement ce que nous devons expérimenter. Il y a différence à différents moments de notre vie. Il va nous faire vivre des choses que nous n'aurions jamais, jamais soupçonnées de vivre parce qu'il veut nous montrer ce que nous sommes et éliminer des choses en nous qui ne le glorifient pas particulièrement et qui proviennent du premier Adam. Alors, frères et sœurs, il sait exactement ce que nous devons vivre afin de nous amener à ressembler à Jésus-Christ et c'est ce qu'il a fait avec Jacob. Rappelez-vous, Jacob avait rencontré le Seigneur à Bethel, mais il va vivre des choses difficiles pendant tout son séjour avec son oncle Laban. Et 20 ans ici se sont écoulés. Et voilà que Jacob revient à la maison. Et il sait qu'il va revoir Ésaü et qu'il n'y échappera pas. Et voilà la situation dans laquelle se trouve Jacob dans Genèse chapitre 32. On va lire les versets 1 ensemble. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Et en y voyant, Jacob dit, « C'est le camp de Dieu, il va donner le nom à ce lieu, le nom de Mahanaïm, qui signifie finalement, littéralement, qui signifie littéralement deux armées ou deux camps, l'un visible, Jacob et ses serviteurs, et l'autre invisible, les anges de Dieu. » Et la première chose que j'aimerais vous faire remarquer ce matin à propos de Jacob, c'est que Jacob était quelqu'un qui bénéficiait de la protection de Dieu. Et frères et sœurs, j'espère que c'est votre conviction ce matin, vous êtes des enfants de Dieu, j'espère que vous avez la certitude que vous bénéficiez de la protection de Dieu. Vous dites amen? Vous n'êtes pas seul. Et j'aimerais qu'on regarde quelques versets pour nous confirmer ça. Mais avant, j'aimerais simplement rappeler que, alors qu'il retourne à la maison, Dieu envoie des anges à sa rencontre, et il est évident que pendant une grande partie de son voyage, Jacob ne s'est pas rendu compte qu'il y avait des anges qui le protégeaient. Mais à un moment donné, ces anges-là qui étaient invisibles vont se matérialiser, il va les voir, et il s'aperçoit qu'il n'est pas seul, finalement. Et qu'est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit dans Hébreux, chapitre 1, verset 14? « Les anges sont tous des esprits au service de Dieu, envoyés par lui pour apporter de l'aide à ceux qui doivent hériter, à ceux qui doivent recevoir le salut. » Frères et sœurs, les anges, ils voyagent dans une autre dimension que la nôtre parce qu'ils ne sont pas... Ils ne sont pas matériels, ils sont spirituels. Par contre, on est capable de les voir avec les yeux de la foi, parce que la parole nous donne des exemples, parce que la parole nous le confirme. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que les anges sont tous des esprits. Les anges de Dieu sont tous des esprits au service de Dieu, envoyés par lui pour apporter de l'aide ou exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ceux qui doivent hériter le salut, frères et sœurs, eh bien, vous êtes appelés à recevoir le salut pleinement, c'est-à-dire dans votre corps glorifié aussi, un jour lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Vous vous souvenez un jour que Jacob avait eu un songe et qu'il avait vu une échelle et appuyée sur la terre et dont le sommet touchait jusqu'au ciel. Et il a vu dans cette échelle des anges qui montaient et descendaient par cette échelle, dans Genèse chapitre 28. Et maintenant, il voit encore une fois ces anges qui lui apparaissent pour lui enseigner que Dieu est avec lui. Le psalmiste écrit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Tandis que je préparais ce message, je suis tombé sur un livre que Billy Graham a écrit sur les anges, dans lequel il rapporte l'histoire de John Payton, un homme qui a vécu de 1824 à 1907, qui était missionnaire dans les Nouvelles-Hébrides. John Payton raconte qu'un soir, une tribu indigène habitant sur ces îles se souleva contre les missionnaires. Ils avaient décidé d'envahir la mission, de brûler les bâtiments et de tuer les missionnaires qui s'y trouvaient. Et Payton et sa femme se trouvaient à l'intérieur de leur modeste maison, priant durant cette nuit de terreur que Dieu les délivre de la folie de ces hommes. Lorsque le soleil se leva, ils furent surpris de voir que leur agresseur avait quitté les lieux. Un an plus tard, le chef de cette tribu indigène se convertit et donna sa vie à Christ. Se rappelant ce qui était arrivé il y a un an, Payton va demander au chef pourquoi il n'avait pas brûlé les maisons et la mission et qu'il ne les avait pas tués. Surpris, le chef va répondre ceci, « Dites-moi donc, d'où sortait cette armée d'hommes qui se trouvait avec vous ce soir-là? » Payton savait qu'il n'y avait personne avec eux cette nuit-là, mais le chef affirmait qu'il avait eu peur d'attaquer parce qu'il y avait vu des centaines de grands hommes vêtus d'habits resplendissants, entourant la mission, tenant dans leurs mains des épées. « Mes amis, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. » Amen. Tournez avec moi dans 2 Rois chapitre 6, verset 15. 2 Rois chapitre 6, verset 15. Ça parle d'Élisée. Ça parle d'Élisée et de son ministère, un ministère aussi prolifique que celui d'Élie. Et à un moment donné, eh bien, le roi de Syrie a des plans contre Élisée. Il veut le faire arrêter, il va aller le chercher. Et il est avec son serviteur. Et le roi, pour l'intimider, 6, verset 14, il est écrit, « Il y envoya des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. » Le serviteur de l'homme de Dieu, c'est-à-dire d'Élisée, se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Élisée répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Frères et sœurs, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Frères et sœurs, l'armée du Seigneur est beaucoup plus nombreuse que ce que le diable peut avoir entre ses mains pour essayer de nous influencer et nous faire marcher par la foi. Une de nos premières prières ce matin, en tout cas, ma première prière ce matin, c'est « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie. » Pour que je voie qu'on n'est jamais seul. Tu nous as dit que tu serais à nos côtés, c'est ça, jusqu'à la fin du monde. Mais Seigneur, fais-nous voir à travers les yeux de la foi l'armée qui protège tes enfants, l'armée qui protège ton Église. Et le diable ne sera jamais capable de jeter cette Église par terre, tu nous l'as promis. Seigneur, tu règnes sur ton Église. Seigneur, c'est ton Église. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, si on marche par la vue comme le serviteur d'Élisée, on va paniquer. Et on va marcher par nos sentiments, on va marcher par nos émotions. Et là, on va paraître minable, mais on n'est pas des minables. Dieu a payé un grand prix pour nous racheter, pour qu'on soit des enfants de Dieu. Et frères et sœurs, on a une armée derrière nous. On a une armée autour de nous qui nous protège. Dieu veille sur ses enfants. Et ce qui vous arrive quand c'est dans les voies du Seigneur, eh bien, vous pouvez être certain que ce n'est pas dans le but de vous démolir que Dieu le permet, mais dans le but de vous faire grandir, de vous faire progresser dans votre foi et dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Amen. Voici donc Jacob, cet homme de Dieu qui avait rencontré le Seigneur et qui avait reçu des promesses de la part de Dieu, entre autres, celle de prendre soin de lui. Mais si Jacob bénéficie de la protection de Dieu, c'est quelqu'un d'angoissé. C'est la deuxième chose que j'aimerais vous faire remarquer à propos de Jacob. Jacob bénéficiait non seulement de la protection de Dieu dans un premier temps, mais c'était quelqu'un de fort angoissé. Lisez les versets 3 et 4. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Chers amis, quel changement de style dans les paroles de Jacob. Jacob utilise ici un langage charnel pour gagner la faveur de son frère. « Voici ce que vous direz à mon Seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. » Pas ainsi vous parlerez à mon frère qui voulait avoir ma peau quand mon père était pour mourir. « Ainsi parle à mon Seigneur Ésaü, ton serviteur, pas ton frère, le fourbe, le fraudeur, le menteur, le voleur, ton serviteur Jacob. » Sa philosophie consiste à toujours utiliser un langage flatteur après tout ce que vous avez fait. Et c'est ce que fait Jacob ici, il utilise des paroles apaisantes pour Ésaü. « Ainsi parle ton serviteur Jacob, j'ai séjourné, regardez la suite, j'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à ses yeux. » Les messagers reviennent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés voir ton frère Ésaü, Jacob. » Et ils vont rapporter à Jacob ce qu'il craignait d'entendre le plus. Et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Soit qu'il lui préparait une réception d'honneur, ou soit qu'il voulait détruire son frère. Remarquez ce qui est écrit au verset 7. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Jacob, qui bénéficiait de la protection de Dieu, était un homme angoissé, ce malgré le fait que Dieu lui avait dit qu'il serait avec lui. Et ce, malgré le fait que Dieu avait envoyé son armée d'anges pour veiller sur lui. Jacob panique et il commence à trembler parce qu'il est saisi d'angoisse. Frères et sœurs, il est saisi d'angoisse parce qu'il fixe ses yeux sur les circonstances. Ça, c'est les yeux de la chair. Il vient de décrocher ses yeux de la foi, il vient de voir l'armée d'anges qui est là. Il sait qu'il bénéficie de la protection de Dieu, mais il décroche ses yeux, c'est plus la foi qui fonctionne, c'est la vue. Et par la vue, bien, il garde ses yeux fixés sur les circonstances, il panique, il est angoissé, plutôt que de les fixer sur le Seigneur. Il a donné l'occasion à sa chair de reprendre le dessus sur lui. Et là, toutes sortes de pensées vont inonder son cœur, les unes à la suite des autres. Remarquez ce qu'il va faire à partir du verset 7. Effrayé et saisi d'angoisse, nous dit le texte, il va partager en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps, et le bas, le camp qui restera pourra se sauver. Il décide, en tout cas, il a décidé que conserver la moitié de ses biens, c'était mieux que de ne rien avoir du tout. C'est comme ça qu'il fonctionnait, hein? Voilà comment il réfléchit dans sa chair. Il pensait que c'était le meilleur plan qui soit. Et puis tout à coup, il réalise qu'il serait peut-être temps qu'il commence à prier. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte, hein? Lisons à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Jacob dit, Dieu de mon père, Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Frères et sœurs, peu importe ce que vous vivez en tant qu'enfant de Dieu, Dieu veut vous faire du bien, Dieu veut que ça vous fasse du bien. C'est ce que le texte dit ici. Par la vue, tu peux dire, Seigneur, je vois pas où tu veux me faire du bien. Mon frère arrive avec 400 personnes, il veut m'arracher la peau, il veut me faire la peau. Seigneur, je vois pas où tu veux me faire du bien, et pourtant, c'est ce que tu promets. Mais par la foi, frères et sœurs, celui qui marche dans la vérité sait que le meilleur est toujours à venir pour l'enfant de Dieu. Voilà pourquoi, peu importe ce qui nous arrive, même si ça nous fait mal, même si ça nous attriste, si on est droit dans nos bottes, le meilleur est toujours à venir pour celui qui marche dans les voies de Dieu. Amen. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Et ainsi de suite. C'est une belle prière, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez comment Jacob réagit dans un premier temps pour se mettre à prier dans un deuxième temps? Pour Jacob, frères et sœurs, la prière n'est pas la première chose qui lui vient à l'esprit, mais plutôt la dernière chose à faire. Frères et sœurs, est-ce que la prière constitue votre première réaction lorsque vous traversez une situation difficile? Ou est-ce que la prière est la dernière chose à laquelle vous pensez quand il n'y a plus rien d'autre que vous pouvez faire? Je pense que ce texte nous parle à travers Jacob aussi, qu'on est fort, fort rapide de réagir dans notre chair. Il est toujours là le sommeil pour reprendre, pour essayer de régner sur nous. Mais le Seigneur, il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, à travers l'apôtre Paul, faites des prières et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ainsi que Jacob agissait. C'est pas qu'il ne croyait pas à la prière, mais tout en croyant à la prière, il essayait aussi d'arranger les choses à sa façon. Il va séparer les troupeaux et il va mettre une certaine distance entre chacun des troupeaux. Et le texte nous dit, il donne là le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. Puis il commença à envoyer des présents à Ésaü, croyant pouvoir ainsi l'apaiser. En fait, il va prendre 580 animaux de valeur et il va les envoyer par groupe de 5, espérant ainsi gagner le cœur de son frère aîné. Vous saisissez comment son esprit travaille? Vous voyez de quelle façon il réfléchit? Vous voyez comment il se planifie les choses? Nous sommes en présence ici, frères et sœurs, de quelqu'un qui est très angoissé et très affligé. C'est pas qu'il ne croit pas en Dieu, mais c'est plutôt quelqu'un qui dit, Seigneur, je te fais confiance, mais... Ça vous arrive, ça, d'entendre le mais quand vous parlez avec quelqu'un? C'est vrai que le Seigneur était bon avec moi, mais... C'est vrai que le Seigneur, je suis convaincu que le Seigneur m'aime, mais... Vous remarquez que le « mais », il freine tout le reste de tout ce que vous venez de dire. Et Jacob, c'est un peu comme ça, hein? « Seigneur, je te fais confiance à travers les actions qu'il fait ici. C'est « Seigneur, je te fais confiance, mais... » Je fais aussi confiance à ma chair. Je fais aussi confiance à mes sentiments, mes impressions, à ce que je vois. Combien il est difficile pour Jacob de s'abandonner entre les mains du Seigneur, et pourtant, le texte nous dit que Dieu veut lui faire du bien. Frères et sœurs, est-ce que j'ai réalisé quelque chose en préparant le message? c'est que plutôt de faire confiance au Seigneur, si on fait confiance en nous-mêmes, on perd cette bénédiction que Dieu voulait nous déverser dans nos vies en voulant nous faire du bien. Premièrement, Jacob est quelqu'un qui bénéficie de la protection de Dieu. Le Seigneur lui avait promis de prendre soin de lui, de veiller sur lui. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui est très angoissé. Il ne veut pas lâcher prise et laisser Dieu agir. Troisièmement, c'est quelqu'un d'abattu, c'est un homme vaincu. La troisième chose que j'aimerais vous faire remarquer à propos de Jacob, c'est quelqu'un qui est vaincu. Lisons les versets 22 à 25. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de la rivière Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, c'est-à-dire lorsqu'il a réalisé qu'il n'aurait pas le dessus sur Jacob, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Jacob est un homme vaincu. Regardez ce que Dieu va faire avec Jacob. Rappelez-vous que Dieu est à l'œuvre dans la vie de Jacob et qu'il veut lui faire du bien. Frères et sœurs, n'oublions pas que Dieu est le potier qui cherche à nous façonner à son image et à sa ressemblance et qui n'arrête jamais d'œuvrer sur nous, même après nous avoir sauvés. Nous voilà donc avec Jacob qui se retrouve finalement seul, verset 24. Il a peur, je suis sûr qu'il a peur parce qu'il ne sait pas ce qui va lui arriver. Il a fait du mieux qu'il pouvait, il a aussi pris un temps pour prier, et voilà maintenant qu'il se retrouve seul avec lui-même. Je veux que vous voyiez où Dieu l'a amené. Premièrement, Dieu l'a amené dans une situation d'isolement. Dieu veut que Jacob se retrouve seul. Il est écrit au verset 24 qu'il était seul. Et vous savez qu'il est difficile pour Dieu de nous amener dans cette position d'isolement afin que nous puissions garder notre calme et reconnaître qu'il est Dieu. Quand il y a un temps de louange le dimanche matin, je pense que le moment le plus difficile pour une assemblée, c'est quand il n'y a personne qui se met à louer. Le silence, il parle plus encore souvent que les sujets de louange qu'on peut entendre. En tout cas, moi, derrière la chaire, quand je dirige la louange et qu'on demande à louer le Seigneur, qu'il y en a un ou deux qui commencent à louer, et puis là, il n'y a plus rien. Tu cherches du regard, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pesant, mais c'est aussi un temps où Dieu nous parle. C'est aussi un temps où Dieu nous rappelle quelle était ta semaine avec moi, quelle était ta relation avec moi durant la semaine. Quelle bénédiction tu peux partager à l'Assemblée ce matin à travers la louange? Quel est le bien? Je t'ai fait du bien cette semaine, comme j'ai fait pour Jacob. Quel est le bien que tu as reçu de moi cette semaine? Quels sont les bienfaits que tu peux proclamer à haute voix pendant ce moment de louange? Souvent, le silence, Dieu nous parle encore plus quand c'est le silence que quand on entend prier. Est-ce que vous savez ce que l'homme charnel désire? Il désire être constamment occupé. Il déteste le silence. Il ne veut pas être seul avec Dieu, il ne veut vraiment pas. Il va être entouré par ses amis, il va être occupé à faire des choses. Lorsqu'il est à la maison, il veut que la télévision soit tout le temps allumée. Et lorsque la télévision ne peut être allumée, il va entendre la radio. Et s'il ne peut pas écouter la musique à travers la radio parce que cela dérange, il va mettre des écouteurs sur ses oreilles. Le silence lui pèse, il ne veut pas se retrouver seul avec Dieu parce que cela le dérange. Ô combien Dieu veut que nous venions le rencontrer seul. Ô combien Dieu veut nous amener dans une position, dans une situation d'isolement pour qu'on ait un face-à-face avec Dieu, pour qu'on ait un cœur à cœur avec le Seigneur. Finalement, Dieu va amener Jacob dans une situation où il va se sentir très seul afin de pouvoir l'amener à une position de confrontation, c'est-à-dire amener Jacob à être confronté avec son Dieu, avec lui-même. La quatrième chose que j'aimerais vous faire remarquer ce matin à propos de Jacob, c'est que quelqu'un doit être confronté avec lui-même. Lisons encore une fois le verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui. Il n'est pas écrit qu'il a lutté avec l'homme. Il est écrit, le texte nous dit que l'homme a lutté avec lui. Jacob est couché, essayant peut-être d'aller dormir, et tout d'un coup, il est attaqué. Avez-vous déjà été attaqué dans votre vie, frères et sœurs? Imaginez Jacob qui est là, seul dans le désert, pensant tout le temps à Ésaü, et alors qu'il fait nuit, un homme surgit en mettant le grappin sur lui, et un combat, je ne savais pas trop comment le dire, vous dites, c'est un combat de catch, oui? Combat de catch, vous savez, c'est quoi le catch, oui? Okay, bon, on dit ça, un combat de catch? Que nous, c'est un combat de lutte, ici, c'est un combat de catch, bon. Un combat de catch, et commence. Qui est cet homme qui est en train de lutter avec Jacob? Josué nous dit dans Josué chapitre 5, verset 15, que c'est l'ange de l'Éternel. Et lorsque Jacob termine ce combat de catch, il dit, j'ai vu Dieu face à face. Verset 30, il dit, j'ai vu Dieu face à face. Est-ce, frères et sœurs, est-ce que vous savez qui luttait avec lui? Ce n'était pas un ange ordinaire. C'était l'ange de Yahweh, c'était l'ange de l'Éternel. C'était une apparition de Jésus-Christ avant qu'il s'incarne en tant qu'homme. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'on appelle une théophanie en théologie. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Il ne pouvait pas apparaître en tant qu'homme puisqu'il n'était pas encore venu au monde. Mais Dieu est esprit et en tant qu'esprit, il pouvait se matérialiser dans un ange. Et on appelle ça l'ange de l'Éternel. Voilà donc Jacob en train de lutter avec Christ, mais l'accent ici n'est pas mis sur Jacob luttant avec Christ, mais plutôt sur Christ luttant avec Jacob. Parce que voyez-vous, frères et sœurs, c'est le Seigneur qui a initié ce combat de catch. Et le point ici, ce n'est pas que Jacob essayait d'obtenir du Seigneur, ce que Jacob essayait d'obtenir du Seigneur, mais plutôt ce que le Seigneur essayait de faire avec Jacob, parce qu'il voulait lui faire du bien. C'est le Seigneur qui avait commencé ce combat, et c'est donc le Seigneur qui était en train de lutter avec Jacob. Il l'a amené dans une situation d'isolement, afin de l'amener dans une situation de confrontation, mais regardez la suite. Il l'a dirigé vers une situation désespérée. Lui faire vivre une situation désespérée. Voyez, lisez les versets 24 et 25. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de l'ange, et l'emboîture de l'ange de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Quiconque a déjà fait de la lutte sait qu'un lutteur dépend de ses jambes. Pour combattre, ce sont les muscles les plus forts de son corps. Si un lutteur ne reste pas debout, s'il veut lutter à genoux, il va avoir des gros problèmes. La force d'un lutteur, c'est dans ses jambes. C'est là que se trouvait la force de Jacob, et ce que Dieu va faire, c'est le frapper exactement là où il est le plus fort. Non pas dans son point faible, mais dans son point fort. Il va le mettre hors de combat, il va lui régler son compte, il va le vaincre. En fait, il est tellement abattu, Jacob, que non seulement il ne peut plus lutter, mais il ne peut même plus courir et sauver sa vie si jamais Ésaü se présentait à l'instant même devant lui. Jacob, c'est un homme qui est complètement vidé, qui est complètement affaibli, qui est vaincu. Et le Seigneur va l'amener dans cette situation d'isolement pour l'amener à le confronter avec lui-même et à travers cette situation désespérée. Nous avons devant nous un homme défait et vaincu. Il a perdu son combat de catch. Non seulement Jacob était un homme vaincu, mais le fait d'avoir été vaincu fait de lui un homme dépendant. Et frères et sœurs, ce que le Seigneur veut nous amener à travers tout ce qui nous permet de vivre, c'est de développer une dépendance envers la personne de Jésus-Christ. Et finalement, je prends beaucoup de paroles pour expliquer cette simple leçon. C'est qu'à travers, on vient au Seigneur, on passe par une nouvelle naissance. C'est vrai que c'est un nouveau commencement. C'est vrai qu'on est de nouveau, on est des bébés dans le Seigneur. Mais on entre dans un autre monde où il y a un combat spirituel qui va se livrer. Et ce combat spirituel, eh bien, on sait que l'ennemi de nos âmes va les livrer contre nous, soit pour nous amener à nous décourager, soit pour nous paralyser afin qu'on ne proclame pas l'Évangile. Mais ce combat spirituel, il existe. Et là, eh bien, on grandit en pensant qu'on devient très, très spirituel parce qu'on lit la parole de Dieu. Mais on est capable d'évaluer notre degré ou notre maturité spirituelle, pas en fonction de ce qu'on lit dans la parole, mais en fonction de ce qu'on met en pratique concernant ce qu'on a lu dans la parole, mais aussi face aux épreuves que nous recevons au quotidien ou que nous vivons au quotidien ou qui nous arrivent ou qui nous frappent durement. Jacob, Dieu veut lui montrer que s'il le rencontrait à un moment donné un jour à Bethel, il y a énormément de choses encore à changer dans sa vie. Et souvent, à travers cette rencontre avec le Seigneur, qu'on peut faire à travers sa parole, qu'on peut faire à travers des frères et sœurs en Christ, à travers des difficultés de toutes sortes, le Seigneur veut nous montrer, écoute, tu te penses très, très spirituel, tu penses que ton niveau est là, attends un peu, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire le ménage dans ta vie. Parce qu'il y a ça qui ne m'appartient pas, parce qu'il y a encore ça qui ne m'appartient pas, et parce qu'il y a encore ça qui ne m'appartient pas. Maintenant, c'est plus difficile pour nous de dire à une sœur ou dire à un frère, écoute, ça, il y aurait peut-être ça que tu devrais régler dans ta vie. Souvent, on va nous dire, t'es qui pour nous dire ça, t'es qui pour nous juger. Hein? Ça, c'est la phrase magique, ça, t'es qui pour nous juger, on n'a pas le droit de juger. Mais quand ça vient du Seigneur, c'est différent. Et la façon que le Seigneur va utiliser pour nous amener à réaliser ce qu'on est vraiment, par rapport à ce qu'on s'imagine être, eh bien, c'est fort, fort efficace. Le Seigneur, il nous connaît, il sait mieux que nous-mêmes comment venir nous prendre et comment venir nous chercher. La cinquième chose que je veux vous faire remarquer à propos de Jacob, c'est que c'est quelqu'un qui est maintenant devenu dépendant. Lisons le verset 26. Il dit, « Laisse-moi aller. » C'est le Seigneur qui dit cela à Jacob, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Combien de fois on dit ça dans nos prières avec le Seigneur? On présente nos enfants au Seigneur qui ne sont pas encore sauvés. Et combien de fois il arrive, on dit, « Seigneur, maintenant, tu as eu la prière, occupe-toi-en. » Jacob nous dit, il nous donne ici une très, très bonne attitude à adopter quand on vient se présenter devant le Seigneur. « Seigneur, je vais continuer à harceler avec la prière du salut de mes enfants que tu ne m'aies tant et aussi longtemps que tu ne m'auras pas béni. » Et toute bénédiction, frères et sœurs, est une grâce du Seigneur. Le Seigneur, il ne doit rien. Mais quelle bénédiction, quelle grâce quand on voit Dieu qui répond aux prières des siens et qu'on voit nos enfants s'avancer, qu'on voit nos enfants se lever, qu'on voit nos enfants qui sont transformés par la grâce de Dieu. Parce que, à travers vos prières, Dieu a suscité, a provoqué des choses dans la vie de nos enfants pour les attirer à la croix et faire d'eux, de les faire passer de ténèbres à la lumière. Amen. Mais ce n'est pas là quelque chose d'intéressant. Si Jacob est complètement affaibli, il ne peut rien faire. S'il avait voulu, avec quelqu'un d'autre, même avec un être humain, continuer à se battre, eh bien, il aurait été incapable. Frères et sœurs, moi j'ai dit, pourquoi que l'ange de l'Éternel lui dit « Laisse-moi aller ». C'est un ange. Chers amis, ne pensez-vous pas que si un ange voulait réellement s'enfuir, il aurait pu le faire? Réfléchissons un peu. Voici un ange qui dit à Jacob, « Laisse-moi aller. » Jacob qui dit, « Non, je ne te laisserai pas aller. » Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ici? Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Lorsque l'ange dit à Jacob, « Laisse-moi aller. » Frères et sœurs, je pense que l'ange, il pense en lui-même, « J'espère qu'il ne le fera pas. » J'espère qu'il ne le fera pas, car l'ange, en fait, ne voulait pas partir. Parce qu'il n'y avait pas besoin de demander la permission à Jacob pour partir, frères et sœurs. Frères et sœurs, nous avons besoin d'apprendre quelque chose sur la façon dont Dieu agit. À plusieurs reprises, nous pensons que Dieu cherche à s'éloigner de Dieu. À plusieurs reprises, certains pensent que Dieu ne veut pas les entendre, qu'il ne veut pas les bénir, et qu'il vous dit « Laisse-moi aller, laisse-moi tranquille ». Et que vous le laissez aller. Et quand vous le laissez tranquille, frères et sœurs, même dans vos temps de prière, qu'est-ce qui arrive? Vous venez de rater une bénédiction que Dieu avait en réserve pour vous. Rappelez-vous la femme cananéenne dans Matthieu chapitre 15. Elle n'était pas juive. Elle n'avait aucun droit de se présenter devant le Messie d'Israël. Et encore moins de s'attendre à recevoir de lui. Mais Jésus était là et elle vint vers lui en lui disant, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Savez-vous, si vous regardez le texte, savez-vous ce que Jésus a dit? Matthieu chapitre 15 et verset 21-22. Savez-vous ce que Jésus lui a répondu? Il ne lui a rien dit. Ses disciples vont s'approcher, ils vont lui dire avec insistance, « Renvoie-la, car elle ne cesse de crier en nous suivant. » En d'autres mots, « Laisse-la aller. » Seigneur, ne t'en occupe pas, laisse-la aller. Ce n'est pas une sœur d'Israël, c'est une païenne, une cananéenne, une syrophénicienne, un peuple qui est méchant. Voilà son peuple. Laisse-la aller. Jésus va alors répondre à la femme, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vient se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux petits chiens. » Chers amis, combien d'entre nous, après avoir entendu cette parole de Jésus, on aurait arrêté d'insister en disant, « Seigneur, désolé de t'avoir importuné, Seigneur Jésus. Excuse-moi, je ne voulais pas te déranger. » Et cette païenne, elle va insister. Et pas cette femme. Est-ce que vous savez ce qu'elle va répondre? Je suppose qu'elle avait le menton pointé vers le Seigneur et que des larmes coulaient sur ses joues. Oui, Seigneur, pourtant même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Seigneur, tu nourris ton peuple. Et même les chiens, Seigneur, même les chiens ont de quoi reçoivent de ta nourriture. Seigneur, c'est vrai que je suis une païenne. C'est vrai que je suis une cananéenne. C'est vrai, Seigneur, que je fais partie des chiens. C'est vrai que je suis une bâtarde, je ne suis pas un membre du peuple de Dieu. Et Seigneur, même les chiens. Et en grec, il y a trois sortes de races de chiens qui est décrite en grec dans ce texte. Et elle dit, écoute, même le plus petit insignifiant des chiens va être capable de trouver des miettes, tu vas le nourrir, Seigneur. Et Jésus, le cœur rempli de compassion, va leur dire à cette femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait non pas comme Dieu le veut, qu'il te soit fait comme tu le veux. C'est ce que le texte biblique nous dit ici. Hein? Et alors même, le texte nous dit, sa fille fut guérie. Jésus était en train de l'éprouver. Il a lancé des phrases pour qu'elle entende, laisse-moi aller. OK, Seigneur, je te laisse aller. OK, Seigneur, je te laisse aller. Mais non. Elle ne vit pas en fonction de ce qu'elle entend. Elle croit en Jésus-Christ. Elle vient le voir. Elle intercède. Elle insiste. Et le Seigneur, il dit qu'il te soit donné comme tu veux, en fonction de ta foi. Elle n'a pas laissé partir Jésus. Cette journée-là, elle a reçu une grande bénédiction. Quelle belle leçon pour nous, frères et sœurs. Mais je ne suis pas en train de porter un jugement ni condamner personne ce matin. Mais combien il est facile à travers notre vie chrétienne, après des années, de tomber dans la routine quand on prie le Seigneur, puis on lui dit n'importe quoi. On n'est même pas concentré sur ce qu'on lui dit. On se demande même après si... Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, j'ai eu des périodes creuses dans ma vie. Ça m'est déjà même arrivé après mon temps de prière de me dire, écoute, qu'est-ce que j'ai demandé au Seigneur? Je ne me souvenais même pas de ce que j'avais demandé au Seigneur, tellement que mes idées s'évadaient à droite et à gauche. Mais cette femme, elle ne fait pas partie du peuple de Dieu et elle vient se présenter à lui. Elle sait que c'est en lui qu'elle va trouver la guérison. Vous souvenez-vous de la parabole racontée par Jésus dans Luc 18? Il dit, il y avait dans une ville, un juge qui ne craignait point Dieu, qui ne respectait personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rendez-moi justice contre mon adversaire. » Et pendant longtemps, le texte nous dit, le juge refusa. Puis il se dit, « Même si je ne crains pas Dieu, que je ne respecte personne, néanmoins, comme cette veuve m'importune, elle me fatigue, elle me tombe sur les nerfs, je vais faire reconnaître ses droits. Sinon, elle continuera à venir et à m'exaspérer. » Et le Seigneur ajouta ceci. « Écoutez ce que dit ce mauvais juge. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus quand il crie à lui nuit et jour? Tardera-t-il à les aider? Je vous le dis, il leur fera justice rapidement. Il est écrit au verset 1 du chapitre 18 de l'Évangile de Luc que Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Seigneur, je me présente devant ton trône de grâce. Je ne te lâcherai pas, je ne te laisserai pas aller tant et aussi longtemps que tu ne m'auras pas béni. La bénédiction, c'est tant et aussi longtemps que tu n'auras pas répondu à ma prière. Et on intercède et on intercède. C'est aussi un test, quand Dieu prend du temps, c'est aussi un test pour nous. Pourquoi tu fais cette prière-là? Par motif égoïste ou vraiment pour ma gloire? Parce que tout, dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, doit servir à glorifier le Seigneur. Amen. Le point ici que Jésus veut soulever, ce n'est pas le fait que Dieu soit injuste. Ce n'est pas le point ici dans Luc chapitre 18. Le point ici sur lequel insiste Jésus, c'est que nous avons besoin de poser notre main sur Dieu comme Jacob le fit, c'est-à-dire insister auprès de Dieu et dire, « Seigneur, je ne te laisserai point aller tant et aussi longtemps que tu ne m'auras pas béni. » Est-ce que vous vous rappelez ce qui est arrivé aux deux disciples sur la route d'Emmaüs dans Luc chapitre 24? Le matin même de la résurrection de Jésus, ils marchaient abattus et découragés, ne sachant pas si Jésus était vraiment ressuscité. Et Jésus va venir lui-même se joindre à eux. Ils vont marcher ensemble sur le chemin d'Emmaüs. Il essayait de les faire réfléchir en partageant avec eux. Partage avec eux les Écritures. Et il est écrit dans Luc chapitre 24, il est écrit ceci. Ils le pressèrent en disant, ils voulaient aller plus loin, mais le texte nous dit qu'ils le pressèrent de rester avec eux. Et c'est ce qu'il va faire. Il voulait partir, mais ce qu'il désirait vraiment, c'était de rester avec eux. Je ne suis pas convaincu qu'il serait resté si les deux disciples n'avaient pas insisté pour qu'il reste. Je ne suis pas convaincu. Frères et sœurs, lorsque l'ange de l'Éternel dit à Jacob, « Laisse-moi aller », vous devez comprendre que l'ange ne voulait pas que Jacob le laisse aller. Chers amis, vous est-il arrivé de laisser partir Dieu trop facilement? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Frères et sœurs, Dieu veut que nous en arrivions à dépendre entièrement de lui, jusqu'à ce que nous disions, « Seigneur, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » La plupart d'entre nous, nous ne sommes jamais rendus jusqu'à cette étape, et cela dépend entièrement de Dieu. Nous avons encore toujours et suffisamment de Jacob en nous pour en arriver à penser, à espérer qu'un jour Dieu nous bénira. Frères et sœurs, on ne vit pas d'espérance concernant la prière. Le Seigneur dit, « Priez et vous recevrez, demandez et vous recevrez. » Frères et sœurs, il y a une assurance. Et quand Dieu répond à cette prière qu'on a faite, combien on est dans la joie parce qu'on lui a fait connaître juste celui, lui seul connaissait notre besoin et il a répondu. Je vous ai déjà parlé, je pense à quelques reprises, mais il y a des nouveaux ici ce matin. Georges Muller, fondateur, un des cofondateurs des Assemblées des Frères, il priait régulièrement le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il séparait son cahier en différentes parties. La date qu'il avait fait cette demande, la date qu'il avait prié pour un sujet, le sujet et la date que Dieu avait répondu. Et à la fin de sa vie, il est mort à 93 ans, et à la fin de sa vie, il a pu dire à tout le monde, rendre témoignage que Dieu avait répondu à plus de 10 000 sujets de prière qu'il avait envoyés au trône de Dieu. Quelle belle leçon pour nous, frères et sœurs. Quelle belle leçon pour nous. Chers amis, avez-vous à cœur la ville de Liège ici, des gens qui sont dans la misère, des gens qui sont dans la drogue, des gens qui sont dans la boisson, des gens qui sont dans la prostitution, des gens qui sont corrompus par le système, des gens qui ne veulent même plus vivre. Remettons ça dans les mains du Seigneur et ayons la certitude que Dieu veut sauver ses âmes. Et que Dieu veut vous utiliser pour sauver ses âmes. Frères et sœurs, est-ce qu'on prend le temps de prier les uns pour les autres? Moi, ce que je fais, je prends le bottin téléphonique, je commence à les lettres A et je m'organise pour diviser ça en 7 jours. Est-ce qu'on prend le temps de prier les uns pour les autres? Dieu dit, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est une promesse du Seigneur, c'est pas moi qui l'invente, c'est dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on prend le temps de prier les uns pour les autres? Le prophète Samuel dit, « Je continue à prier pour vous de peur de pécher. » Le prophète Samuel savait que s'il arrêtait de pécher, de ne pas prier pour lui, c'était un péché. Et ça correspond au Nouveau Testament qui nous dit, « Priez sans cesse. Soyez animés constamment d'un esprit de prière. » Frères et sœurs, est-ce qu'on prend le temps de prier les uns pour les autres? Est-ce qu'on prend le temps de prier pour tous les frères et sœurs qui fréquentent cette église ou si on en choisit certains? Alors que Dieu, lui, ne fait pas de favoritisme. Dieu nous aime tous de façon égale. Et Dieu veut tous qu'on partage sa gloire un jour. Si on voit un frère qui est faible, si on voit un frère qui est tombé dans le péché, est-ce qu'on prie pour lui? Voilà, c'est là que Dieu veut nous amener, à vivre une situation d'isolement. Ça m'est déjà arrivé dans la police de me sentir très seul quand vous avez un pistolet qui est braqué dans votre visage. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un pistolet 38 d'être braqué dans votre visage. Le canon, il était préparé comme ça. Pas plus grand que ça. Mais quand vous l'avez dans la figure, hein, ça déconnecte ici. Hein. C'est pas normal. Hein. Et vous voyez le canon gros comme ça. Hein. Gros comme ça. Et là, tu te sens vraiment seul. Tu ne vois pas ton frère qui peut te protéger, tu ne vois pas personne d'autre. Tout ce que tu vois, c'est le signal d'alarme qui dit « t'es mort, t'es mort, t'es mort ». Ça vous est déjà arrivé dans votre vie chrétienne de vous sentir seul? Oui, ça m'est déjà arrivé. À plusieurs reprises. De me sentir seul, ça ne veut pas dire que j'étais seul. Parce que le Seigneur est toujours là à nos côtés. Et ça nous arrive. Jacob avait rencontré le Seigneur. Et ce jour-là, il s'est senti très seul parce que Dieu l'a amené à faire en sorte qu'il soit seul. Il l'a amené à faire en sorte qu'il soit seul parce que Dieu voulait confronter Jacob à une situation désespérée pour l'amener à dépendre entièrement de son Seigneur. Voici Jacob, un homme qui dépend maintenant entièrement sur le Seigneur. Et finalement, permettez-moi de dire que cet homme qui dépend maintenant entièrement sur le Seigneur est devenu quelqu'un de totalement différent. Frères et sœurs, on a donc... C'est donc difficile pour nous de lâcher prise et de faire confiance au Seigneur. Vous savez, dans un pays où, dans des pays où ils n'ont rien, c'est facile de dire « je peux lâcher prise, j'ai rien ». Et de faire confiance au Seigneur parce que les évangiles le disent. Mais notre frère tantôt prié a dit qu'on vivait bien en Belgique et c'est difficile de lâcher prise quand on a tellement de biens, quand on a des comptes de banque bien garnis. Quand on manque de rien, c'est difficile de lâcher prise et de dire « Seigneur, je marche par la foi ». J'ai parlé de Georges Muller tantôt, vous ne l'auriez pas aimé s'il avait prêché ce que je vais vous dire. Il a dit, lui, dans un de ses messages, qu'un chrétien qui avait un compte de banque, qui avait de l'argent dans un compte de banque, c'est quelqu'un qui manquait de foi. Puis les banques feraient faillite avec Georges Muller. Hein. Il disait, c'est quelqu'un qui s'appuie sur son compte de banque, c'est quelqu'un qui ne fait pas confiance au Seigneur. Il sortait les versets. Donc, je ne l'inviterai pas, premièrement, parce qu'il est mort, et deuxièmement, je pense que c'est un message qui serait très mal passé aujourd'hui. Mais c'était un homme qui avait reçu le don de la foi et qui vivait au jour le jour et qui a pu, sans demander jamais une scène à personne, faire vivre 1200 orphelins à chaque jour. Dieu a pourvu à tous ses besoins. Et quand il est mort, il a dit qu'il a vécu richement. Dieu ne lui a jamais fait défaut. La cinquième chose que je voudrais vous faire remarquer à propos de Jacob, c'est que c'est quelqu'un qui est totalement différent. Regardez les versets 27. 27 et suivants. Rappelez-vous au verset 26 qu'il a dit, « Je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. » Je voudrais vous faire remarquer maintenant la transformation opérée chez cet homme. Frères et sœurs, la transformation opérée chez cet homme. Frères et sœurs, j'espère que vous avez une conviction dans votre cœur en tant que chrétien que Dieu veut continuer à vous transformer à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Amen. Oui. Verset 27, il lui dit, « Quel est ton nom? » C'est l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ, avant son incarnation, en tant qu'homme, qui lui dit, « Quel est ton nom? » Il va répondre quoi? Jacob. Regardez bien maintenant le changement. Rappelez-vous la dernière fois qu'on lui a demandé quel était son nom. Qu'a-t-il répondu? « C'est moi, Ésaü. » Il n'a pas dit « C'est moi, Jacob. » « C'est moi, Ésaü. » Il a menti pour avoir ce qu'il voulait. Il n'aurait jamais admis qu'il mentait. « Mon nom est Ésaü, dit-il en trompant son pauvre père aveugle, Isaac. » Mais maintenant, il dit la vérité, il répond, « Mon nom est Jacob. » À travers tout ce qu'il a vécu, le Seigneur voulait faire un homme dépendant de lui, mais aussi une nouvelle personne avec Jacob. Rappelez-vous que le nom de Jacob est plus qu'un nom. En disant qu'il s'appelle Jacob, il admet. Il confesse qu'il est un escroc, qu'il est un menteur, un voleur, un séducteur, un tricheur. Maintenant, lorsque l'ange lui demande son nom, il ne le fait pas pour savoir vraiment comment il s'appelle, mais pour que Jacob confesse qui il est. Quand on vient devant la croix de Jésus-Christ, qu'est-ce que le Seigneur veut? C'est qu'on confesse qu'on est des pécheurs perdus, sans l'efficacité de la croix, sans le sacrifice de Jésus-Christ. L'ange savait avec qui il avait lutté. Jacob ne savait pas vraiment avec qui il luttait, mais je peux vous certifier que le Seigneur conduit toutes choses, connaît toutes choses. Et lorsque le Seigneur lui demande quel est son nom, il demande à Jacob d'avouer, par le fait même, quel genre d'individu il était. « Mon nom est Jacob. » Et je veux vous faire remarquer ce que l'ange dit au verset 28. « Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. » Car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Il est devenu quelqu'un de différent, c'est une nouvelle personne. Il a vécu en quelque sorte une nouvelle naissance, frères et sœurs. Le vieux Jacob est mort, c'est le nouvel Israël qui ressort. C'est plus la même personne. Pourquoi les gens ne sont pas sauvés? Parce qu'ils refusent, de confesser qu'ils sont pécheurs. Mais là, Jacob a vécu des choses avec son Seigneur. Et là, il confesse qu'il est. Seigneur, je te confesse. En gros, qu'est-ce qu'il est en train de confesser? Mon nom Jacob se résume à être pécheur et bénéficie de la grâce de Dieu. Attendez une minute. Je viens de dire que Jacob est sorti vainqueur. Et je vous avais dit tantôt que je croyais qu'il avait perdu son combat. Et le texte nous dit ici qu'il a gagné. Comment l'a-t-il gagné, frères et sœurs? Il l'a gagné en le perdant. Il a gagné son combat en le perdant. Il est sorti finalement vainqueur de son combat lorsqu'il est arrivé au bout de lui-même. Et souvent, Dieu veut nous amener au bout de lui-même. Au bout de nous-mêmes, pardon. C'est alors que Dieu va changer son nom de Jacob en celui d'Israël. Israël qui veut dire, en tout cas, ça veut dire plusieurs choses, mais Dieu se montre fort, ou celui qui a lutté avec Dieu, ou encore le peuple de Dieu. Hein, Israël, elle, pour Elohim, pour éternel. Oh, combien Dieu a béni cet homme, il a dû le briser afin de pouvoir le bénir, il a dû l'estropier afin de pouvoir le couronner. Savez-vous la parole de Jésus, il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu? Dieu l'a estropié pour pouvoir le couronner. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Oh, je ne sais pas si j'ai le temps. Quelle heure est-il, là, parce que j'ai brisé ma montre? Bon, on va terminer. On va terminer, ça fait 40 minutes, c'est assez. Je vais terminer en disant simplement ceci, frères et sœurs. Dans le livre de Gédéon, Dieu dit à Gédéon de briser une cruche. Et rappelez-vous que Gédéon avait une torche à l'intérieur de cette cruche. Et Dieu dit à Gédéon, brise la cruche, parce que ce n'est pas seulement que la cruche soit brisée que la lumière puisse briller. Ma vie, frères et sœurs, ne brillera pas jusqu'à ce que je sois brisé par le Seigneur. Rappelez-vous Marie, lorsqu'elle a brisé le vase d'albâtre, le texte nous dit qu'un doux parfum remplit la maison. David dit, oh Dieu, le sacrifice que je t'offre, c'est moi-même avec mon orgueil brisé. Oh Dieu, ne refuse pas mon cœur complètement brisé. Frères et sœurs, je veux vous rappeler qu'il n'y a pas de bénédiction sans brisement. Peu importe comment cela arrive, combien d'entre nous n'avons jamais été brisés? Combien d'entre nous aussi évitons d'être brisés parce qu'on veut continuer à faire ce qu'on veut faire par nos propres forces? Mais le Seigneur nous montre à travers ce texte ce matin. J'essaie de conclure. De nous appuyer sur lui ou de nous appuyer sur nous, c'est les deux choix qui nous reste. Frères et sœurs, avez-vous appris à vous appuyer sur le Seigneur depuis que vous l'avez rencontré, depuis que vous l'avez accepté, depuis que vous faites partie de sa famille? Êtes-vous devenu quelqu'un qui est désespéré afin que vous puissiez devenir quelqu'un de vaincu, afin que vous deveniez quelqu'un qui dépende du Seigneur, que vous deveniez une personne différente? Vous savez, le nom de Jacob dans l'Ancien Testament, vous savez comment ça se traduit hein, dans le Nouveau? Ça veut dire Jacques. Moi, je peux vous dire une chose, cet enseignement-là, c'est une bonne gifle pour moi ce matin. Parce que le Jacob de l'Ancien Testament, ça correspond parfaitement à ce que j'étais. Parfaitement à ce que j'étais en monde. Et Dieu a encore du ménage à faire dans ma vie. S'il n'y a plus de ménage à faire dans votre vie, bien, rendez-lui le gloire ce matin. Comme Jacob, j'étais un homme entêté, têtu toute ma vie. J'ai toujours voulu tirer mon plan. Et comme Jacob, j'étais trompeur, fraudeur, menteur, voleur. J'aimais faire pleurer les gens, tellement j'étais méchant. Et Dieu, j'ai capitulé, Dieu m'a brisé. Aujourd'hui, j'ai plus de réputation. Ça ne me dérange pas, le Seigneur a perdu la sienne avant moi. Si vous voulez servir le Seigneur, attendez-vous à être détesté, à être haï, à tout perdre. Parce que c'est lorsque vous aurez tout perdu, c'est lorsque vous serez abaissé que Dieu va vous élever pour la gloire de son nom. Jacob a passé des moments difficiles et je n'ai pas pu le dire dans le texte ce matin, mais le brisement, ça ne veut pas dire que Dieu veut faire passer par toutes ces choses comme il a fait passer par Jacob. Si vous êtes droit ce matin dans vos bottes avec le Seigneur, vous avez juste à lire sa parole et sa parole va vous briser. Sa parole, c'est comme un marteau. Elle va vous briser. Pas pour vous détruire, mais encore une fois pour vous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Jacob, je peux lever ma main ce matin. Si j'avais vécu à l'époque de Jacob, on aurait dit ces deux jumeaux. Je pense qu'on aurait fait un bon trio, moi, Laban et Jacob. a fait un bon trio. Et dans sa grâce, Dieu m'a sauvé. Et je sais que je suis sauvé parce que je suis incapable aujourd'hui d'haïr quelqu'un qui veut me faire du mal. Il y a une seule chose que je suis capable de détester aujourd'hui et d'haïr, c'est le péché, mais pas le pécheur. Le pécheur, c'est Dieu qui s'organise avec ça. Moi, je suis là pour proclamer sa parole. Ça fait la première fois que je reviens devant vous depuis 3-4 semaines. Et je tiens simplement à vous dire que depuis 14 ans, on a été ensemble. Que je suis fier d'avoir travaillé avec le conseil, de travailler avec le conseil qu'on a présentement. Ce sont des gens qui pleurent en prenant des décisions pour le bien-être de l'Église. Ce sont des gens à travers leur ministère qui sont aussi brisés par la réaction de certaines personnes en tant que membres du conseil. Mais je vois ces gens qui grandissent semaine après semaine, année après année. Et je vous invite à prier pour les membres de votre conseil. Priez pour les membres de votre conseil. Moi, par la grâce de Dieu, je continue à travailler avec vous. Je continue à exercer ce ministère dans l'Église. Et quand Dieu jugera que ce sera le temps pour moi de partir, il n'y a pas personne qui va me sortir d'ici. Le Seigneur va me sortir d'ici. Je l'ai déjà dit, hein, ça fait 14 ans que je vous le répète. Et même si je voulais m'accrocher après ça ici, si le Seigneur me dit, toi, tu t'en vas, je vais partir. C'est pour mon Église. C'est son Église. Et je veux simplement vous remercier, je ne l'ai jamais fait. On est rapide pour faire des critiques, mais on est là à faire des compliments. Je tiens à vous dire que parmi les 8 églises que j'ai fréquentées, vous êtes les 10 qui m'avaient apporté le plus. Vous êtes les gens qui m'avaient béni le plus. Et je rends grâce à Dieu pour m'avoir conduit dans cette église. On a vécu des moments difficiles ensemble, mais avec l'aide du Seigneur, on a grandi, on a progressé ensemble, on a partagé nos épreuves, on a partagé nos joies, on a partagé nos peines. Et je continue que c'est pas, je suis persuadé que ce n'est pas fini. Le Seigneur va permettre encore des choses qui arrivent ensemble. Mais rappelez-vous, c'est l'Église du Seigneur, c'est l'Église de Jésus-Christ, et à travers ça, le Seigneur veut nous faire grandir. Le Seigneur, à travers Jacob, il veut nous transformer, faire de nous des nouvelles personnes. Et ce qui est béni avec le Seigneur, c'est que tu as la nouvelle naissance, tu es une nouvelle personne, mais jour après jour, Dieu te transforme pour que tu deviennes encore une nouvelle personne, et faire en sorte qu'à un moment donné, quand tu parles avec les gens, quand tu es en présence des gens, eh bien, la présence de Jésus-Christ transpire à travers chacun de nous. C'est ma prière. Je suis votre berger, vous êtes les brebis. Je ne dis pas le berger, je dirais le sous-berger, puisque le berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais continuons à prier les uns pour les autres, afin qu'on puisse continuer à progresser ensemble et à glorifier le beau nom de Jésus-Christ. Amen.